Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Bienvenue sur Point d'Orgue. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses. Vous l'entendez peut-être, je suis un petit peu enrhumé avec les beaux jours qui arrivent, les variations de température. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais cela, je l'espère, n'altérera en rien la pertinence de mes propos. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous un état d'esprit et un mouvement, et le mettre en lien avec ce que l'on pouvait entendre dans la musique sacrée, dans nos églises. Ce sont des mouvements qui, à première vue, presque philosophiquement, pourraient être antithétiques, parce que le mouvement sur lequel je vous propose une réflexion aujourd'hui, c'est le romantisme. Donc le romantisme, qui est un mouvement... dire artistique, c'est presque réducteur. Un mouvement culturel qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et qui s'est exprimé énormément dans le XIXe siècle, et notamment en France, et notamment dans la musique. Mais avant de parler musique, il faut un petit peu que l'on parle de ce mouvement, de sorte à ce que vous compreniez pourquoi, à première vue, on pourrait se poser la question de la transcendance dans le romantisme et se dire comment des compositeurs, par exemple, à l'inverse d'un Bach, hein, qui lui était complètement pétri par cette idée de transcendance, de divin, etc., comment un mouvement qui, à première vue, peut paraître plus lointain, comme le romantisme, a pu donner quelques chefs-d'œuvre, car vous allez le voir, il y a des chefs-d'œuvre. Alors, le romantisme, c'est avant tout donc, un mouvement culturel, je vous le disais, qui a baigné dans toute l'Europe. Et c'est quelque chose qui a irradié sur les arts, hein. Donc il y a la littérature bien entendu, il y a la peinture, la sculpture et bien entendu la musique. C'est un mouvement qui prône un retour au moi, un retour à l'homme. Donc c'est une vision qui est extrêmement anthropocentrée et de cette manière-là, on va expérimenter tous les ressentis de l'homme. Si vous voulez, c'est le combat de la raison et du cœur. Et chez les romantiques, c'est le cœur qui l'emporte. C'est véritablement les sentiments humains. Et donc, avec toutes les explorations que l'on peut avoir dans l'homme, dans les tréfonds de sa pensée. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de thèmes autour de la mort, de la vie, de l'amour. Tous ces grands thèmes chers aux romantiques qui font que, eh bien, on a eu des épopées littéraires absolument extraordinaires. On peut penser à Stendhal. On peut penser, je sais pas, à Victor Hugo, etc. Voilà. Donc des figures extrêmement fortes comme ça, qui visent à mettre en premier lieu l'homme et ses sentiments. C'est pour ça également que ça a été suivi également en matière politique, presque avec l'exaltation de certains nationalismes. On peut penser à l'engagement de certains poètes comme Lamartine, par exemple. Et dans une autre mesure, si on doit voir ça d'un point de vue musical, on peut penser à Chopin, très marqué par les révolutions dans son pays. Et quand il écrit l'étude numéro 12 de l'Opus 10, dite révolutionnaire, on sent toute cette espèce de rage et de fougue presque politique qui atteint les pages de l'œuvre. Et donc, on se situe dans ce mouvement-là, c'est-à-dire avec un homme omniprésent et que l'on cherche à ausculter au plus près de ses sentiments. Et là, on peut se dire effectivement, comme je vous le disais au début, comment se fait-il qu'on laisse un peu de place à Dieu là-dedans? Eh bien, certains ont eu la révélation, si j'ose dire. Alors, vous le savez, si vous écoutez cette émission régulièrement, le 19e siècle est une période qui m'est tout à fait chère. Donc, en vérité, là, je crée un faux suspense. Il est évident que certains compositeurs ont mis en avant un côté transcendant. Et ce qui est assez amusant, c'est que pour certains, celui dont on va parler maintenant, ça s'est un peu fait à la fin de sa vie, comme beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une vie assez incroyable. Et sur ces vieux jours, on va se poser la question de la transcendance, de la divinité, et bien entendu de la mort. Et c'est ça qui conduit parfois à se tourner vers des chefs-d'œuvre, notamment spirituels. Donc je vais vous parler de l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Il s'agit de Franz Liszt, un immense donc compositeur du 19e siècle, hein, qui a été profondément européen, qui a baigné dans tout ce romantisme. Notamment, il était très ami par exemple avec Delacroix. Enfin bon, il y avait un espèce de terreau très fertile à cette composition romantique. Et Franz Liszt a composé toute sa vie des œuvres très orchestrales, très profanes, etc., dont le romantisme était vraiment très sentimental. Mais vers la fin de sa vie, il faut savoir que Franz Liszt a une sorte de révélation. Il est rentré dans les ordres et s'est devenu l'abbé Franz Liszt quand il a terminé ses vieux jours, et là il a eu un côté beaucoup beaucoup plus mystique et empreint d'une véritable religiosité. Et c'est pour ça qu'il a écrit certaines de ses œuvres qui sont absolument extraordinaires. Alors par exemple, là, comme ça, je peux vous citer son Via Crucis, extraordinaire, ou bien entendu sa monumentale fresque Christus, qui raconte toute la vie du Christ en 3 heures. Et là, moi, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus modeste. Il s'agit d'une toute petite parition d'un Ave Verum Corpus. Alors l'Ave Verum Corpus, c'est assez spécial, c'est assez magique. C'est une prière catholique qui exprime la transsubstantiation de la messe, c'est-à-dire que c'est la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacré. Le texte est le suivant. Salut, vrai corps né de la Vierge Marie, qui a vraiment souffert, immolé sur la croix pour l'homme, toi de le côté percé laissa couler le sang et l'eau, sois notre viatique à l'heure de la mort, ô doux Jésus, ô bon Jésus, ô Jésus, fils de Marie. Donc vous voyez le côté terriblement humain du corps qui a souffert, et en même temps le côté divin de ce vrai corps-là, qui était le corps incarné de Dieu. Alors vous allez voir que cet Ave Verum Corpus, assez court, hein, il fait moins de 5 minutes, il est extrêmement méditatif. Cela s'explique notamment par le fait qu'avant, l'Ave Verum Corpus était chanté au moment de l'élévation. Comme vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus d'élévation, mais on a cette espèce de temps suspendu, vous allez voir, avec des changements harmoniques qui font des couleurs un petit peu tristes, un petit peu nostalgiques, totalement romantique, vous allez le voir, et c'est là où on va voir la puissance du discours romantique au service véritablement des souffrances, parce que là on est dans un thème purement romantique, hein. La souffrance, le corps presque déchu, mais en même temps glorifié. Donc vous allez voir comment la musique romantique arrive à sublimer cette prière de l'Ave Verum Corpus. Donc je vous laisse découvrir ici la version de Franz Liszt. Et voilà la magie qui s'opère à nouveau, c'est-à-dire que le maître a compris quel pouvait être tout ce qu'il y avait autour de son art et le mettre dans la musique. C'est-à-dire que on a tout ce dont je vous parlais un petit peu avant. C'est pour ça que j'ai fait quelques digressions sur l'art, sur le fait que l'homme était concerné par ses tourments, etc. Vous voyez bien que cette musique, il y a une forme de placidité. C'est une musique extrêmement horizontale. Peu de très très grandes nuances. On est très loin des listes et des grandes heures, si vous le voulez. Et on a en même temps beaucoup de puissance dans l'évocation simplement par l'harmonie. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais notamment la fin, quand il évoquait notamment le mot mortis, vous avez des changements d'harmonie tout à fait impressionnants qui montrent un côté angoissant, mais finalement qui s'apaise. Vous avez cette amen finale qui vient tout dégonfler, qui vient apaiser toutes les tensions qui auraient pu être là en place. Donc c'est vraiment tout ce que peut la musique romantique dans tout son génie, si vous voulez, dans cet extrait-là. C'est pas de la musique très prétentieuse, mais c'est symptomatique de tout ce que pouvaient vivre ces compositeurs à ces moments-là. Et donc il est vrai que, comme je vous le disais, on sent un Liszt qui pense à la mort, qui pense à la fin. Et en même temps, une certaine forme de confiance qui est là, même si l'angoisse de la mort est là. Donc cette espèce de dualité, d'ambivalence, qui a été souvent mise en avant, hein, du reste, hein, chez les romantiques, la vie, la mort, la nature, la ville, regardez chez Baudelaire, par exemple. Vous avez ces espèces d'oppositions qui sont toujours en dualité, en confrontation, et de cette confrontation, soit peut naître le chaos, quelque chose de totalement apocalyptique. Ça, c'est une vision très pessimiste des choses, soit là, comme on l'a dans cet extrait, quelque chose de. On est presque dans la béatitude quand on reçoit cet amen final qui vient nous dire finalement, n'aie pas peur, avec cette main tendue du musicien qui est en fait la main tendue de Dieu. Voilà, donc pour cette Ave Verum Corpus de Liszt, bien entendu, il a écrit une multitude d'autres pages assez similaires que je vous invite à découvrir. Mais là, on va passer à un autre compositeur. Alors, on reste dans le domaine du romantisme, hein. Je ne déroge pas de cela aujourd'hui. Il s'agit d'un compositeur, vous savez, que j'affectionne particulièrement, puisque je le dirige assez régulièrement à Saint-Sernin, à Toulouse. Il s'agit de Anton Bruckner. Alors Bruckner a écrit plusieurs motets extrêmement intéressants. Il a écrit notamment un corpus de 4 motets qu'il a présenté à peu près en même temps. Et l'œuvre dont je vais vous parler, là, il s'agit de son Os Justi. Alors là, celui-là, il est très 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 particulier et il a quelques petites caractéristiques musicales que j'aimerais vous présenter avant de l'écouter, de sorte à préparer un petit peu vos oreilles à ce que vous allez entendre. Donc souvenez-vous, hein, Bruckner c'est quand même un compositeur de génie, très très pieux, très croyant. Souvenez-vous que sa dernière symphonie, la 9e, est inachevée et que de façon presque mystique et géniale, elle est dédiée à Dieu. Donc l'inachevé est comparé à Dieu et on a quelque chose de l'ordre de l'infini, là, vous vous rendez bien compte. Et Bruckner, donc, c'était quelqu'un comme ça qui avait des visions de transcendance. En tout cas, c'est la manière dont il exprimait. Ça se sent en particulier dans sa musique, même profane. Encore une fois, je vous le dis, écoutez ses symphonies, sont des morceaux de bravoure de la musique, je vous les conseille, mais également dans certains de ses motets. Donc, parce que, à côté de cela, il avait une profonde culture religieuse, non seulement parce qu'il était croyant, mais en plus parce qu'il était organiste. Et c'était, paraît-il, un organiste de génie. Il improvisait, paraît-il, merveilleusement. Hélas, aujourd'hui, on n'a quasi aucun témoignage de cela, si ce n'est effectivement les gens qui pouvaient dire qu'il était excellent. On a quelques transcriptions qui ont été faites, elles ne sont pas de lui, on ne sait pas si c'est vraiment de lui, etc. Donc il y a une espèce d'aura mystique qui l'entoure. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'était un harmoniste de génie, et qu'à ce titre-là, effectivement, on ne peut songer qu'à l'orgue. Et il est vrai que quand on entend soit les motets, soit ses symphonies ou d'autres œuvres de Bruckner, on pense obligatoirement à l'orgue, à son espace, à son gigantisme. Et vous allez le voir, ici, c'est une œuvre qui est un petit peu différente toutefois. Alors, ce Os Justi, il utilise les versets 30 et 31 du psaume 37, donc le psaume 36, hein, dans la Vulgate. Voici le texte. Il est très court. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Alléluia. Un texte donc très court et une musique exceptionnelle, vous allez l'entendre. Alors déjà, Bruckner va se servir du chant grégorien, vous allez le voir, qui est sous-jacent, jusqu'à la fin où il est là totalement affirmé, et il a écrit ça de manière très particulière. Donc c'est une musique qui a été composée en mode lydien. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un mode qu'on appelle également le mode de fa, qui est très particulier parce que il se chante sans aucune altération. Vous savez, les altérations, ce sont les dièses et les bémols. Mais si on prend le mot altération au pied de la lettre, eh bien, s'il n'y a pas d'altération, le morceau est parfait. Et d'ailleurs, ça vient corroborer l'écriture même de la pièce, puisqu'elle est composée énormément d'accords parfaits. Vous allez voir, ça commence d'ailleurs même par un accord parfait qui montre qu'on est dans quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement sensible, d'extrêmement délicat, musical, et très naturel. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Donc le chœur est divisé en quatre voix, sauf à deux moments où il est divisé en huit voix. Vous allez le sentir tout de suite, c'est ces deux grandes ampleurs que donne Bruckner à la partition. Et ensuite, elle se termine avec une sorte de tapis vocal, très très doux, avec les sopranes en filigrane qui vont reprendre le thème de l'Alléluia grégorien final. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. J'ai eu l'honneur de le diriger, vous allez entendre la version que j'ai dirigée lors de notre concert de juin à Saint-Cernin, donc par les chœurs de la Schola Cantorum de la Basilique. Et c'est avec cet Alléluia tout en légèreté, tellement aérien, tellement grégorien finalement, que ce Hostius Christi se termine. Vous voyez, il y a aussi quelque chose de formidable avec cette période romantique, c'est le respect de ce qui s'est fait avant. Vous le voyez notamment dans la peinture, il y a cette espèce de culte des ruines, des splendeurs passées. Et vous avez un peu la même chose avec la redécouverte du grégorien. C'est tout à fait dans cette période-là que vous allez avoir une redécouverte du grégorien. Je vous ai parlé de Liszt en début d'émission. Bien entendu, la Via Crucis est ponctuée par l'influence du grégorien, et de la même manière, vous avez cette même prégnance du grégorien ici, avec ces mélodies qui se suivent tout à fait comme le ferait le grégorien, le texte du Hos Justi grégorien lui-même. Et donc, bien entendu, ceci reste totalement assumé avec ce Alléluia final, qui, lui, pour le coup, est du grégorien pur. Voilà, donc, cette espèce de lien qui, à première vue, aurait pu sembler philosophiquement pas très naturel entre un romantisme très tourné vers l'homme, ses tourments, ses passions, ses angoisses, ses amours, et la foi, mais finalement, il ne faut pas oublier que le Christ s'est fait homme et qu'il a également vécu cela. Et donc, quoi de mieux que des compositeurs romantiques pour faire jaillir tout ce que a pu l'homme en termes de sentiments, de sensations, et de l'appliquer avec Dieu. Voilà, pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé ces deux œuvres que je vous ai présentées. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes sur Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée.